pureté. Pureté, pureté. Les presses universitaires de Rennes vous offrent le thé et ses auteurs sur un plateau d'argent. Tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque Universitaire Centrale et le jeudi à 17h sur Syllabe.
À tous d'être venus si nombreux et si nombreuses surtout en fait pour cette l'occasion de cette rencontre autour donc en Pur Café, l'occasion de cette rencontre sur Arthur après Arthur, donc la matière arthurienne tardive en dehors du roman arthurien, donc entre 1270 et 1530. Donc l'ouvrage est publié sous votre direction, publié en 2017, Madame Christine Ferland-Panatcher, et réunit donc une trentaine de professeurs en langue et littérature du Moyen-Âge, dont Fabienne Pommel, Goulven Perron, Daniel Keruel et vous-même, Madame Christine Ferland-Panatcher, qui avait écrit deux articles, Interpolation et extrapolation, étude de quelques épisodes arthuriens en contexte non arthurien, et à la mode de Bretagne, la culture arthurienne dans le roman de M, de Sarrazin, et le roman de Guillaume d'Orange. Donc, ce qui est fascinant dans cet ouvrage, pour faire une petite introduction rapide, c'est déjà le dialogue qui s'instaure entre les articles. Hein, je vous conseille de commencer, pas forcément par le début, mais aussi de commencer par les articles qui peuvent vous plaire par le titre. Et ensuite, l'index, qui est quand même spectaculaire, est d'une précision, certes universitaire, mais comparé à d'autres ouvrages qu'on peut retrouver dans d'autres éditions, l'index est vraiment précis et prend donc... l'occurrence du passage dans l'édition et ensuite en gras vous soulignez l'occurrence pour bien marquer donc le passage. Ma première question va être assez quand même classique généralement pour ces purs cafés, mais d'où est partie votre volonté de regrouper et de commenter toutes les occurrences de la matière arthurienne tardive en dehors du roman arthurien, Madame Christine Ferland-Panatcher?
Alors oui, comment ce projet est-il né? C'est une longue histoire, puisque je commence à avoir une carrière qui est longue. En fait, je suis spécialiste depuis longtemps de littérature arthurienne, de matière de Bretagne. Et quand j'ai commencé à vouloir choisir un sujet de thèse, donc au siècle précédent, j'ai constaté que beaucoup de travaux avaient été faits sur le XIIe et le XIIIe siècle, c'est-à-dire les siècles classiques du Moyen Âge. Et comme un sujet de thèse doit être original, je me suis dit qu'il était peut-être raisonnable d'aller voir plutôt vers les siècles moins étudiés. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur deux romans qu'on peut qualifier de post-arthuriens du XIVe et du XVe siècle, Perceforest et Artus de Bretagne. Alors, Artus de Bretagne, je fais une petite parenthèse, je vous le recommande. C'est un texte qui jusqu'à présent était inédit, que je viens d'éditer. Et c'est un texte qui a l'originalité de parler non pas du roi Arthur, mais d'un descendant de Lancelot, qui est Arthur, fils du duc de Bretagne. Donc c'est un texte arthurien qui est vraiment breton armoricain, ce qui est peu fréquent finalement. Donc j'ai décidé de travailler sur la fin du Moyen-Âge et j'ai réalisé que dans les textes de la fin du Moyen-Âge, on avait finalement... Que des références distantes à la matière arthurienne. On ne parlait plus de Lancelot, Arthur comme héros de roman. On travaillait à la périphérie. En revanche, on en parlait un peu partout. Alors qu'avant, on ne parlait de matière arthurienne que dans les romans arthuriens. Donc on en parlait beaucoup, mais dans des textes bien spécifiques. À la fin du Moyen-Âge, la matière arthurienne est devenue un sujet de culture commune, que tout le monde partage. Et donc, pour bien mesurer... l'impact de la matière arthurienne dans les imaginaires, eh bien, il m'a semblé nécessaire de mener une enquête très large. Et donc j'ai dû travailler sur le mode de la collaboration, parce qu'il fallait des spécialistes de chansons de jazz, des spécialistes de théâtre, des spécialistes de chronique, et il est impossible d'être spécialiste de tous ces champs. Et donc nous avons organisé un séminaire sur 2 ans, en invitant des collègues d'un peu partout et spécialistes de champs différents.
D'accord. Ben c'est vrai qu'en fait, l'ouvrage, en fait, il est poursuivi par une certaine continuité, donc on peut trouver des intertextualités entre les articles, c'est ça qui est très intéressant. Et il commence donc par une étude de motifs arthuriens que les romans tardifs, et donc la chanson de geste et les chroniques aussi hors arthuriennes ont conservé, en passant par des éléments de motifs caractéristiques comme les îles, par exemple, dans l'article « Avalon, l'île perdue, la fin du temps arthurien » dans les romans de Mélusine, par justement Johanna Pelvinski-Malingre, ou des reprises moins évidentes telles que celle du XVe siècle, reprise par Froissart dans son Meliador, oui. Pensez-vous donc que ces othéors, ces chroniqueurs et ces poètes reprenaient ces motifs de la martyre arthurienne, et même, voire même certains passages, en ayant conscience que cette tradition remontait à des auteurs antérieurs à Chrétien de Troyes?
Oui, oui. Il est certain que les auteurs qui ont utilisé la matière arthurienne donc, en période tardive, c'est-à-dire 14e, 15e siècle, avaient conscience que cette matière était déjà un peu démodée et que leur modèle était ancien. D'ailleurs, très souvent, ils travaillaient à partir de textes de romans en vers, et le roman en vers était un genre démodé qui avait été remplacé par le roman en prose. Rien que cette différence formelle faisait qu'ils ne pouvaient qu'avoir conscience de cet archaïsme de la matière arthurienne. Et en plus, la langue avait changé. Quand un auteur du XVe s'appuie sur un roman de Chrétien de Troyes, il n'a pas autant de mal que nous à lire le texte en ancien français, mais quand même, c'est une langue qui lui sonne un peu étranger. Donc, il est certain qu'ils avaient conscience de cette altérité de la matière arthurienne classique.
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut voir, après la lecture de l'ouvrage, et notamment dans le choix de votre corpus, de corpus choisi, une particularité dans le mélange des matières? Et est-ce qu'on peut parler, à partir de ce mélange de matières, donc la matière telle qu'elle était définie par Jean Baudel au XIIIe siècle, d'une matière hybride, en fait? Est-ce qu'on peut parler de matière hybride?
Oui, certainement. Alors, pour bien situer les choses, au XIIe, XIIIe siècle, il y avait des textes qui parlaient essentiellement de Charlemagne, c'est ce qu'on appelait la matière de France, c'était les chansons de geste. Il y avait des textes qui parlaient de la matière de Bretagne, donc c'est les romans arthuriens, et puis la matière de Rome, c'était les textes qui adaptaient des textes de l'Antiquité. Donc ces trois types de textes étaient bien séparés et clairement il y avait chez les auteurs la conscience de produire un texte de la matière de Rome, un texte de la matière de Bretagne ou un texte de la matière de France. Et peu à peu, cette distinction s'est effacée, les frontières sont devenues poreuses et comme la matière arthurienne a eu beaucoup de succès, elle a eu tendance à influencer les autres matières. C'est-à-dire que les chansons de gestes se sont mis par exemple à inviter dans leur histoire le roi Arthur, alors que normalement le roi Arthur n'a rien à faire auprès de Charlemagne. Et ainsi on a pu envoyer Charlemagne en Avalon par la même occasion. La fée Morgue est arrivée dans les chansons de geste. Même chose, et à l'inverse, dans les romans arthuriens, on a pu voir arriver des motifs épiques, des combats par exemple, qui sonnaient plus chansons de geste que romans. Et donc il y a eu un mélange des matières, et ce mélange des matières en fait va donner par la suite, à la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle, ce qu'on appelle le roman de chevalerie, après un passage souvent par l'Italie et l'Espagne. Mais le roman de chevalerie, c'est le résultat de ce mélange des matières qui s'est opéré à la fin du Moyen Âge.
D'accord. Donc là, on va aborder en fait le premier article que vous avez écrit dans l'ouvrage, Interpolation et extrapolation. Alors, ce terme d'extrapolation, est-ce que vous pouvez un peu nous l'expliquer, même s'il est assez clair finalement dans l'étymologie même du mot?
Oui, oh, je me suis amusée, c'est une sorte de jeu de mots. On parle souvent pour les textes arthuriens d'interpolation, c'est-à-dire que dans une chanson de geste, soudain, il va y avoir un épisode en plein milieu qui va se passer à Avalon avec des figures arthuriennes. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'incrustations arthuriennes dans des textes non arthuriens. Donc on parle couramment d'interpolation. C'est une pratique aussi que l'on trouve chez les copistes. Souvent, un copiste commence à copier, il arrête, il va chercher un autre texte, il copie un bout, il reprend. Voilà. La pratique de l'interpolation est bien attestée chez les copistes, chez les auteurs. Ça fait partie du vocabulaire courant qu'on utilise quand on parle de la littérature médiévale. Alors, à partir d'interpolation, je me suis amusée avec le terme extrapolation. Par ce terme extrapolation, j'ai voulu désigner des ajouts arthuriens qui n'étaient pas au cœur des textes, mais au début ou à la fin. Parce que je me suis aperçue que l'une des caractéristiques des insertions, des ajouts arthuriens à la fin du Moyen-Âge, une caractéristique qui avait été peu étudiée, c'est que souvent c'était au début ou à la fin qu'on parlait d'Arthur. Soit que l'histoire qu'on était en train de raconter est une préhistoire arthurienne, soit que l'histoire qu'on était en train de raconter aboutisse dans le futur à Arthur. Donc j'ai un peu joué avec les mots, je suis littéraire.
On peut prendre l'exemple tout simplement de la chanson de Roland, qui avait été une copie du XIVe siècle, c'est ça? Où le copiste avait rajouté un passage du début de Yvain Chevalier au Lion, toute la première partie du prologue, voilà. Arthur de Bretagne, qui la prouesse nous enseigne, voilà.
Tout ce passage-là, il avait... C'est un collage. Voilà. C'est vraiment un collage, une chanson de Roland avec, hop, une cour arthurienne au début. Et l'intégration se fait très bien, d'ailleurs.
D'accord. Et est-ce que, finalement, cette extrapolation change le cadre dans lequel le roman était envisagé? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir tendance à moins l'oraliser? Est-ce que ça change aussi les codes sociaux
De pratique de lecture?
Oui.
Alors, les pratiques de lecture des textes arthuriens à la fin du Moyen-Âge sont assez diverses, en fait. Ça dépend beaucoup des milieux, et les pratiques sont beaucoup moins homogènes qu'elles ne pouvaient l'être au XIIe siècle. On pratique la lecture individuelle, ce qui n'était pas forcément toujours le cas au début du Moyen-Âge. Donc, on pratique la lecture individuelle, silencieuse, mais pas toujours. Souvent, on articule quand même un peu avec l'élève, donc on oralise quand même quand on lit tout seul. Mais bon, la lecture silencieuse commence à s'imposer. Il y a beaucoup aussi de lectures que je qualifierais d'intimes, un peu comme celle qui est décrite dans Le Chevalier au Lion, hein, une fille qui lit pour ses parents. Donc une scène de lecture intime, c'est pas vraiment collectif, on n'est pas très nombreux, une petite famille. Des scènes de lecture collective plus amples, un lecteur qui peut être un clerc, qui peut être un jongleur qui lit pour une cour assez nombreuse. Et puis, il semble qu'à dans certaines cours, par exemple à la cour de Bourgogne, il y ait eu des lectures curiales qui étaient un peu des événements, des performances. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à cette période, la matière arthurienne devient autre chose que littérature. C'est-à-dire que désormais, elle fait partie de la culture commune. Et donc, elle apparaît par exemple dans les pratiques chevaleresques. On joue au chevalier arthurien. On prend le nom de chevalier arthurien dans un tournoi et on se bat comme se battrait Lancelot. Un jeu de rôle, en quelque sorte. La matière arthurienne envahit les arts décoratifs. Enfin, envahit, le terme est un peu fort. Mais enfin, on a des tapisseries à sujet arthurien, des aumônières à sujet arthurien. On a trouvé des chaussures en Angleterre avec des scènes arthuriennes. Brodé. Et puis, ça envahit aussi, enfin, ça prend place aussi dans l'onomastique. Vous pouvez appeler votre enfant Tristan ou donner des noms à coloration arthurienne. Et Guillaume de Machaut, un poète de la fin du Moyen-Âge, a appelé son chien Lancelot. Donc, la matière arthurienne n'est plus seulement littéraire, c'est devenu une mode, véritablement. Une mode qui a conquis plusieurs champs sociaux. Avant, c'était essentiellement aristocratique. Maintenant, à la fin du Moyen-Âge, il y a aussi des pratiques bourgeoises. Donc, ça n'est plus seulement littéraire et les pratiques sont très, très diversifiées.
D'accord. Donc, justement, dans ce deuxième article, La mode de Bretagne, vous expliquez un concept donc, de reprise de l'histoire du Graal, notamment, donc ce texte du milieu du XIIIe siècle, c'est ça, à part de Robert de Boron, voilà, et qui ensuite va continuer à être copié jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Est-ce que ça aussi, c'est un phénomène récurrent dans nombre de textes, d'avoir ces passages de l'histoire d'El Graal qui reviennent régulièrement?
Alors, l'histoire d'El Saint Graal, c'est un texte un petit peu particulier. C'est un texte qui a été écrit après le conte du Graal de Chrétien III, après la quête d'El Saint Graal. Et c'est une sorte de suite par anticipation, comme on en fait dans les cycles de fantasy maintenant. C'est-à-dire qu'on a raconté après ce qui se passait avant. On a raconté la préhistoire du Graal. On trouve d'assez nombreux cycles à la fin du Moyen-Âge qui reprennent toute l'histoire du Graal, donc l'histoire d'El Saint Graal en particulier. Mais quand même, globalement, ce qui caractérise la fin du Moyen-Âge, c'est un relatif désintérêt pour le Graal, qui peut nous surprendre, mais qui s'explique de plusieurs façons. D'abord, le sujet avait peut-être fini par être un peu usé. Le Graal, c'est une merveille, et par définition, une merveille, ça doit étonner. Hein. Étymologiquement, la merveille, mirari, ça doit étonner. Or, un Graal dont vous parlez depuis deux siècles, avec Chrétien III, les multiples continuations de Chrétien III, les versions en prose, etc., etc., ça cesse d'être un peu étonnant. Ça s'use, toutes les merveilles littéraires s'usent. Et le Graal était peut-être un peu usé. Par ailleurs, le Graal n'avait jamais réussi à conquérir une orthodoxie religieuse. ça n'est jamais devenu une relique en tant que telle. C'est une relique littéraire tout au plus, mais l'Église n'a jamais reconnu le Graal en tant que tel, même si certaines églises, en Espagne entre autres, prétendent avoir le Graal. Mais en fait, ça, ce sont des reconstructions postérieures. Donc, le statut du Graal entre religion et littérature était ambigu, et ça a pu, à la fin du Moyen-Âge, à un moment où il y a quand même déjà les prémices de la réforme contribuaient à certains désintérêts pour le Graal. Donc il y a des manuscrits centrés sur le Graal, mais vraiment, parmi les sujets arthuriens, le Graal n'est pas le plus apprécié.
D'accord. Et donc cette mise en dérision, justement, il y a beaucoup d'éléments dans les textes tardifs du Moyen-Âge où il y a une mise en dérision, soit du chevalier, soit d'éléments comme le Graal. Et est-ce que ça n'a pas en fait influencé aussi dans le fait de la perte de cette matière arthurienne après au XVIe, même après le XVIIe siècle, même si des textes de théâtre, notamment sous Louis XIII, demeurent? Il y a une perte quand même cette matière.
Le Moyen-Âge a déjà, même au XIIe, XIIIe siècle, toujours considéré la matière arthurienne avec une certaine distance. Dès Chrétien de Troyes, il y a un traitement ironique de la matière arthurienne. Par rapport à la matière de France, c'est une matière qui se prend moins au sérieux. Et donc il y a des traitements parodiques dès les origines. D'autant plus que la matière arthurienne, par définition, est une matière qui travaille par réécriture et intertextualité. Et la parodie est une des modalités les plus fréquentes de la réécriture. Donc, dès le XIIe, XIIIe, on a des traitements parodiques. Alors, effectivement, à la fin du Moyen-Âge, ça s'accentue et on a un roman comme Le Comte du Papegaut qui traite le roi Arthur de façon très, très amusante avec un papegaut, c'est-à-dire un perroquet qui est toujours en train de commenter en voix off ce qu'il fait. Avec dans ce roman, on a une espèce de licorne qui est une mère hyperbolique qui considère qu'un nain est son fils et veut absolument le nourrir. Enfin, bon, voilà. Donc, on a un traitement burlesque et parodique assez fréquent à la fin du Moyen-Âge. Et tout ça, finalement, ça nous conduit à Rabelais. C'est vraiment dans la droite ligne, sachant qu'entre les romans tardifs du Moyen-Âge et Rabelais, il y a les chroniques gargantuines qui ont inspiré Rabelais. Donc ce traitement parodique, vous le trouvez dès les origines, dès Chrétien de Troyes, et vous le retrouvez au XVIe. Et effectivement, ça va contribuer au fait que la matière arthurienne va être assez rapidement tenue à l'écart par les lettrés, par la culture savante sérieuse. Et c'est pourquoi au XVIe siècle, la Pléiade ne s'intéresse pas beaucoup à la matière arthurienne. Ce qui n'empêche que la matière arthurienne était quand même lue et qu'un roman comme Artus de Bretagne a été un relatif best-seller de l'imprimerie. Il y a pas mal d'éditions qui ont été conservées. Il y en a une qui est conservée au Champ Libre. On a un Artus de Bretagne du XVIe siècle au Champ Libre. Et ça a continué à travailler souterrainement. Parce que les lettrés du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe ne revendiquaient pas la matière arthurienne quand ils écrivaient, quand ils composaient, mais souvent dans leur enfance, ils avaient lu soit des vieilles éditions arthuriennes, soit des manuscrits, parce qu'il en a traîné quand même pendant un certain temps dans les bibliothèques des châteaux et manoirs. Et donc on a toute une beaucoup d'auteurs qui ont été imprégnés dans leur jeunesse par cette matière littéraire, même s'ils ne le revendiquent pas, de même qu'actuellement, beaucoup d'auteurs, même s'ils ne s'en vantent pas, ont lu des romans policiers ou ont été formés par des bandes dessinées. Ça fait partie de cette culture souterraine qui travaille les imaginaires, et c'est peut-être ce travail souterrain des imaginaires qui explique qu'au XIXe siècle, la matière arthurienne a pu si facilement revenir à la mode. Donc il y a une rupture en apparence, mais je crois qu'au fond, on a continué à la lire.
D'accord. Merci bien. Moi, j'ai fini pour mes questions. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Madame Christine Ferlampin ?
Vous parliez tout à l'heure des différents types de lectures qui se faisaient au Moyen-Âge. Vous avez parlé de lectures curiales. Qu'est-ce qui pouvait les attirer à la cour vers ce type de roman ? Car ça ne servait pas forcément l'image du pouvoir.
Alors, le rapport entre roman arthurien et pouvoir est assez compliqué parce que le roman arthurien célèbre plutôt le pouvoir anglais, hein, c'est quand même un roi anglais que le roi Arthur. Donc à la cour de France, surtout pendant la guerre de Cent Ans, ça n'était pas forcément effectivement une lecture qui avait un sens politique. Mais il n'empêche qu'à la cour de France, on a continué à copier et à lire la matière arthurienne, mais sans lui donner de sens politique, simplement parce que c'était plaisant. sur le mode ludique. En revanche, les rois anglais, eux, ont lu quand même longtemps et vigoureusement la matière arthurienne avec un arrière-plan politique. Alors, il y a beaucoup de cours qui ont continué à... Enfin, qui ont lu la matière arthurienne. Je pensais à la cour de Bourgogne, en fait, quand je parlais de lecture curiale. Il semble qu'à la cour de Bourgogne, on a mis en prose quelques romans de Chrétien de Troyes qui avaient été un peu oubliés. Et il semble qu'il y a eu des lectures publiques le souci de faire réagir l'auditoire, de voir comment ils acceptaient ce texte, si le texte plaisait, avant de faire procéder à une belle copie ornée avec des miniatures. On pense que Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, a demandé à des lettrés donc de mettre en prose ces romans sous forme de brouillon écrit rapidement. Ça a été lu, présenté, et en fonction du succès, ensuite, il y avait production de très, très beaux manuscrits ornés, comme on en a conservé à la cour de Bourgogne. Donc, c'est de cela, entre autres, que je parlais, quand je parlais de lecture curiale. Pour ce qui est des cours, il y avait aussi des spectacles qui présentaient des éléments arthuriens. Par exemple, il y avait des entrées royales, ce sont donc des grands défilés quand un roi entrait ou un grand personnage pour la première fois dans une ville. Il y avait des petits spectacles théâtraux, des mimes, etc., avec des sujets arthuriens parfois. Et puis pendant les repas, il y avait les entremets. Entre chaque plat, on présentait soit un sauvage déguisé, soit une mélusine dans un gâteau. Et il y a eu des entremets à sujet arthurien qui ont pu être pratiqués.
Et donc, par exemple, dans le Hérec en prose, est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a un enjeu politique derrière, au niveau de la cour de Bourgogne ou...
Alors, dans les Hérec en prose, les ajouts, les modifications par rapport au texte en vers sont quand même souvent assez ténues. C'est souvent une modernisation de la langue. L'ajout de noms de lieux, alors oui quand même, de noms de lieux qui renvoient à la géographie bourguignonne, afin de permettre au lecteur de se projeter et de se sentir concerné par le texte. Et effectivement, à partir du moment où le lecteur participe et se projette, ça peut entretenir l'idée d'une valorisation de la cour de Bourgogne à travers cette reprise du roman de Chrétien de
Troyes. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec Artus de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Merci. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est le roi Arthur, le roi des Bretons, qui est le grand héros arthurien. C'est un roi fainéant, d'ailleurs, hein, parce que la plupart du temps, il reste à sa cour, il attend que les chevaliers partent et reviennent, et lui ne se bat pas. Bon. Alors, à la fin du Moyen-Âge, on a tellement parlé d'Arthur, le roi Arthur, et de ses chevaliers, que les auteurs vont explorer des sujets un petit peu périphériques. Et en particulier, on remarque, à la fin du Moyen-Âge, que ce sont les principautés périphériques par rapport à l'espace français qui vont cultiver la matière arthurienne. C'est la cour de Bourgogne, c'est la cour de Bretagne, c'est la cour de Savoie. Alors, pour la cour de Bretagne, il y a Artus de Bretagne, donc il est là. Artus de Bretagne, c'est un roman qui a été composé par un lettré de la cour du duc Jean de Bretagne, vers 1300. Et dans ce roman, Artus est le descendant de Lancelot. Il s'appelle Artus en remembrance du roi Arthur, donc en souvenir du roi Arthur. Et ses aventures vont reprendre des éléments arthuriens qu'ils vont croiser avec un imaginaire oriental, sachant qu'il va aller conquérir la fille du roi de Sorelois en Inde, Florence, qui est la filleule de la fée Proserpine. Et donc, on va avoir un imaginaire féerique très riche, mélangé avec des représentations orientales très intéressantes, avec une toponymie de type réaliste. À la fin, donc, Artus de Bretagne devient duc de Bretagne et empereur d'Inde. Donc c'est une façon certainement de servir finalement les ambitions du duc de Bretagne. Beaucoup de familles de ces environs avaient des intérêts, à l'est de la Méditerranée, les Lusignans, les Anjous. Lui, non, rien. Et le duc Jean était allé en croisade et il avait rêvé, en 1270, il avait rêvé de repartir en croisade et il ne l'avait jamais fait. Ce roman sert peut-être son envie de conquête et ses ambitions sur le mode, de l'imaginaire. Mais c'est un texte vraiment charmant. Et ça se lit assez bien parce que la langue, c'est du moyen français. Donc c'est un peu moins exotique que l'ancien français. Ça ressemble un peu, en plus simple, à la langue de Rabelais. Donc ça se lit presque bien. Mais j'en prépare une traduction, donc si vous patientez, d'ici un an, vous aurez une traduction.
Quelles sont les répercussions de la légende arthurienne dans la littérature contemporaine ?
C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors actuellement, je travaille, mais c'est vraiment un cas parmi des milliers, sur Un conte du Graal de Jeanne Green. Jeanne Green a beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge. Il a fait une adaptation cinématographique du Chevalier au Lion dans Le Monde Vivant. Et il a écrit Un conte du Graal, où il reprend le conte du Graal de Chrétien de Troyes en le projetant dans le Portugal actuel. Et c'est très, très intéressant. Mais c'est un exemple parmi d'autres. J'en parle parce qu'il est peut-être un peu moins connu que Roubaud ou Rio.
Mais après, aujourd'hui, les réécritures, on va dire, entre guillemets, qui sont quand même des œuvres assez uniques, reprennent plutôt des traditions du XIIIe, XIVe siècle, justement, même s'il y a tendance, on en reparlait d'ailleurs sur Julien Gracq, d'ailleurs c'est demain on fait un book club autour de Julien Gracq, donc si vous voulez nous rejoindre, on vous invite, hein, voilà, Le Roi Pêcheur, où tous les noms sont repris, donc du Parsifal, forcément, voilà. Mais aussi de Chrétien de Troyes.
Alors c'est vrai que pour la matière arthurienne actuelle, il y a effectivement des emprunts à la matière arthurienne française, classique, du XIIe, XIIIe, Chrétien de Troyes et le Lancelot Graal en vers. Mais il y a deux autres médias importants, c'est le Parsifal de Wagner et puis Mallory, la version anglaise de la fin du Moyen-Âge, qui a nourri toute la tradition anglo-saxonne. Et très souvent aux États-Unis, les gens sont persuadés que ce sont les Anglais, Mallory, qui a inventé la matière arthurienne, alors que Mallory a simplement résumé, adapté le Lancelot Graal, très habilement, très intelligemment. Mais c'est un adaptateur.
Mais c'est peut-être aussi le dernier à l'avoir fait. Donc, le dernier à l'avoir fait à cette fin du Moyen-Âge,
oui.
Ce sera Alfred Tennyson qui finalement reprendra voilà,
bien
au
après, 19e oui.
siècle. Mais,
oui. Alors, Mallory, c'est vrai, va nourrir toutes les reprises qu'il, en Angleterre. Il va nourrir l'imaginaire arthurien, y compris celui des pré-raphaélites, par exemple. Hein, parce que ça ne concerne pas que la littérature, à nouveau. Mais alors, ce que vous dites, que ce sont les textes du XIIe, XIIIe qui ont influencé les reprises, effectivement, c'est juste. Mais quand même, Artus de Bretagne, je tiens à le dire, a été traduit en anglais, édité en anglais au XVIe siècle, et il a servi de base pour une saga norroise du XIVe siècle. C'est quand même quelque chose. La Rimundar saga, enfin je ne garantis pas la prononciation, mais il a été lu en Islande et réécrit en Islande.
Pouvez-vous nous lire un extrait de l'Artus de Bretagne ?
Comme ça, vous pourrez me dire si vous comprenez. Ben voilà. C'est très très important. Alors voilà, donc je ne vais pas pratiquer l'accent, mais la prononciation restituée, je vais moderniser la prononciation et comme ça vous me direz si ça passe. Donc après la mort, le bon roi Artus, qui tant fut noble, roi et gentil, et entoure qui fut et régna toute la noblesse de toute la chevalerie de tout le monde, si comme furent Gauvin, Lancelot et maint autre chevalier preux et bon, il ôte en Bretagne un duc. Preux d'homme fut sur tous autres, vertueux et puissant, riche et fort d'avoir et d'amis, qu'il fut estrait du noble et au lignage du vaillant chevalier Lancelot, qui t'en fit de haute prouesse, si comme vous le pouvez avoir aucune fois ouï, dire et compter. Ça se comprend ? Oui ? Donc, alors, en plus, si vous avez le texte sous les yeux, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Là, c'était le tout début, en fait. Hein. Voilà. Vous en voulez plus ? Il est à la bibliothèque, si vous voulez l'emprunter.
Vous disiez que le mythe arthurien est devenu quelque chose de culturel partout en Europe. Que pensez-vous des adaptations du mythe arthurien de maintenant ?
Elles procèdent, selon moi, exactement comme cela se pratiquait déjà au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on fait autre chose. On prend la matière arthurienne, on prend les éléments, on les mélange et on crée un nouveau sens et on l'adapte au monde dans lequel on est. Et c'est vrai que des adaptations comme Kaamelott peuvent paraître, iconoclastes, mais pas du tout. Les auteurs du Moyen-Âge faisaient exactement la même chose. Ça n'est pas plus iconoclaste que ce qui se pratiquait au Moyen-Âge. Dès Chrétien de Troyes, vous avez Chrétien de Troyes qui s'empare du roi Arthur, qui est le grand héros des chroniqueurs comme Geoffroy de Monmouth, le grand roi des Bretons, qui a résisté contre les Saxons, etc. Et comment est-ce qu'il le présente dans le Chevalier au Lion ? Eh bien, il est en train de faire la sieste avec la reine Guenièvre. C'est tout. Donc, dès là, on est en plein Kaamelott, il me semble. Le roi Arthur qui fait la sieste et qui ne veut pas se lever parce qu'il a la flemme. Voilà. Donc là, sur ce regard un peu iconoclaste qu'on peut porter sur la matière arthurienne, je pense que l'époque actuelle n'a rien inventé. Elle s'inscrit vraiment dans une pratique vive. C'est pour ça qu'il faut se sentir très libre avec la matière arthurienne. Et pour se sentir très libre, enfin, même si on se sent très libre, ça n'empêche pas de retourner voir les vrais textes. Et je pense qu'on peut être d'autant plus libre que déjà, on sait tout ce qui peut se faire et tout ce qui est possible avec cette matière. Parce que ce n'est pas seulement l'épée dans le perron, ce n'est pas seulement Morgane, c'est aussi la bête glatissante, c'est bon, beaucoup de motifs passionnants. Non, je crois qu'il ne faut pas établir de barrières et de hiérarchisation culturelle, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de considérer les textes comme des œuvres sérieuses qu'on étudie. Voilà, on peut les étudier très sérieusement, on peut les détourner, les adapter. Je crois qu'il faut tout faire et tout accepter comme démarche, en sachant exactement ce qu'on fait.
Bien. Merci beaucoup d'être venus quand même assez nombreux. Merci beaucoup.
Merci de votre présence.
Arthur après Arthur, un ouvrage proposé par Christine Ferland-Parcher, publié aux Presses universitaires de Rennes.
Pureté. Pureté. Découvrez tous les auteurs des Presses universitaires de Rennes chaque jeudi à 17h sur Syllabes.